VOA Afrique, les infos. À Washington.
Cher Robin Dorsil, qui vous remercie de votre fidélité. Dans moins de 10 minutes, notre magazine Carrefour Science et Santé avec Camille Gros-Didier. Juste avant, un rappel des principales nouvelles du monde. Dans un discours concluant sa visite historique au Kenya et en Éthiopie, le président Barack Obama a pris la parole au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Il a souligné les progrès extraordinaires réalisés en Afrique, tout en notant que de tels progrès ne peuvent continuer que grâce au développement et à la démocratie pour tous. M. Obama a également abordé les problèmes d'actualité tels que le terrorisme, la corruption, la question du troisième mandat présidentiel à travers le continent, le Mali, la RCA, le Soudan du Sud et le statut des femmes et des jeunes filles. Précision, Idrissa Seloudia.
D'emblée, le président Obama a tenu à souligner ses propres racines africaines.
I stand before you as a proud American.
Je suis ici devant vous comme un fier Américain. Je suis aussi ici devant vous en tant que fils d'un Africain. Par ces mots, M. Obama a souligné son intérêt personnel dans le développement et la croissance économique continue du continent. Il s'est félicité de progrès allant d'un plus faible taux de nouvelles infections au VIH aux millions d'Africains arrachés à la pauvreté. M. Obama a tout de même reconnu que les bases de ces progrès restent fragiles avec des centaines de millions d'autres Africains vivant encore dans une pauvreté extrême sans accès à des infrastructures de base. M. Obama a été applaudi quand il a ensuite dit que le progrès en Afrique dépendait de la démocratie, mais que cela ne signifiait pas seulement la tenue d'élections formelles. Elle est vide de toute substance, cette démocratie, quand on emprisonne des journalistes parce qu'ils font leur travail et quand on sévit contre la société civile, a-t-il souligné. L'auditoire a éclaté de rire quand M. Obama a dit ne pas comprendre les leaders africains qui refusent de s'en aller à la fin de leur mandat, notant que son propre temps à la Maison-Blanche touchait à sa fin. Et il a exhorté l'Union africaine à insister énergiquement sur le respect des limitations du nombre des mandats et des constitutions.
En Libye, un tribunal a condamné à mort un des fils de Muammar Kadhafi et 8 dignitaires de l'ancien régime. L'ONU a dénoncé ces condamnations. Claire Morin-Gibourg.
Le verdict est sévère. Sur les 37 prévenus, 8 écopent de la peine de mort, dont le dauphin et fils préféré de Muammar Kadhafi, Saïf al-Islam, après un procès de 16 mois éclipsé par les violences et les divisions politiques. Le tribunal a également condamné à mort le dernier premier ministre de Kadhafi, Baghdadi al-Mahmoudi, et son ex-chef des services de renseignement, Abdallah Senoussi. Le procès a eu lieu à Tripoli, où règne la coalition de milices islamistes de Fajr Libya, qui a établi un gouvernement et un parlement non reconnu par la communauté internationale. Saïf al-Islam et les 36 autres prévenus étaient jugés pour leur rôle dans la répression meurtrière de la révolte ayant mis fin à l'ancien régime en 2011. Ils étaient poursuivis pour assassinat, pillage et sabotage, actes portant atteinte à l'Union nationale, complicité dans l'incitation au viol et recrutement de mercenaires africains. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme et plusieurs ONG ont déploré ces condamnations à mort, dénonçant l'absence de procès équitable. Seuls les condamnés à mort peuvent faire appel du verdict en vertu du droit libyen, les peines de prison étant applicables immédiatement.
Le secrétaire général du Conseil de l'Europe, Thorbjørn Jagland, a également condamné la décision, estimant que l'affaire devrait être portée par devant la CPI pour un procès équitable. Les militants des droits humains ont contesté le procès de Saïf al-Islam qui a débuté l'an dernier. Par ailleurs, aujourd'hui, 3 soldats libyens ont été tués et 11 autres blessés dans un attentat suicide dans le centre de la ville portuaire de Benghazi, rapporte l'agence Reuters. Lutte contre Boko Haram, l'armée tchadienne poursuit ses opérations contre les djihadistes sur le lac Tchad, tandis que l'armée camerounaise envoie des renforts dans l'extrême nord. Nicolas Pinot.
Quelques 2000 soldats supplémentaires seront déployés pour lutter contre Boko Haram dans cette région en proie à une vague d'attentats suicides. La radio d'État Cameroon Radio Television n'a pas donné de précision sur la date de ce déploiement. Il portera officiellement à 8500 le nombre de soldats envoyés dans cette région pour combattre les djihadistes de Boko Haram qui y mènent depuis 2 ans des raids meurtriers et des enlèvements. Demain, le président nigérian Muhammadu Buhari se rendra à Yaoundé pour rencontrer son homologue Paul Biya. Le déploiement de la force d'intervention conjointe multinationale avait été annoncé d'ici jeudi. Cette force régionale aura son siège à N'Djamena et doit compter 8 700 militaires, policiers et civils fournis par le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Bénin. Lundi, l'Union européenne a exprimé son soutien aux opérations lancées contre Boko Haram. Et par ailleurs, ce mardi, l'armée tchadienne poursuit sa vaste opération sur des îles du lac Tchad, notamment au sud-est de Bagassola, l'une des principales villes tchadiennes du lac.
Les États-Unis continuent d'être profondément préoccupés par la situation précaire qui prévaut au Burundi suite aux récentes élections controversées. Dans un communiqué, l'envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs, Thomas Perriello, qui revient d'une visite de 3 jours au Burundi, rappelle que toute violation des droits humains et des droits des citoyens par le gouvernement aura des conséquences sur l'assistance américaine. Par ailleurs, Washington appelle Bujumbura à la reprise immédiate du dialogue politique, indique le communiqué. Le président du Mozambique s'est rendu dans la province de Tété où les troupes du Frelimo s'affrontent avec des combattants pro-Renamo de l'opposition depuis début juillet, forçant des centaines de personnes à fuir au Malawi voisin. 2 hommes vont comparaître au tribunal au Zimbabwe pour avoir aidé à tuer un lion célèbre et la police recherche un touriste américain impliqué dans le braconnage, rapporte Associated Press. Le chasseur et le fermier seront jugés pour braconnage pour avoir chassé Cécile, un lion protégé, tué le 1er juillet à Hwange.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Dans le reste du monde, nucléaire iranien, l'Union européenne et l'Iran se disent prêts à mettre en œuvre tous les termes de l'accord conclu à Vienne le 14 juillet dernier. Suite à une rencontre à Téhéran avec la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a promis une collaboration continue avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, tout en souhaitant que les autres parties respecteront leurs engagements. Selon l'AFP, l'Iran et l'Union européenne envisagent aussi une coopération dans divers domaines, y compris le commerce et la résolution des crises régionales. À Washington, le secrétaire d'État John Kerry a exhorté les sceptiques au Congrès à ne pas rejeter l'accord de Vienne. « C'est un bon accord pour le monde et pour les États-Unis », a déclaré M. Kerry ce mardi devant la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants. Alors que le Congrès vient d'entamer une période de discussion de 60 jours sur l'accord, le chef de la diplomatie américaine a averti que tout rejet du document contribuerait à isoler les États-Unis quant au maintien des sanctions contre l'Iran. John Kerry avait déjà défendu l'accord avec force la semaine dernière devant la Commission des affaires étrangères du Sénat, où les Républicains l'ont accusé de s'être fait plumer par les Iraniens. Crise au Yémen, les raids aériens de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite ont repris ce mardi, mettant fin à une trêve humanitaire censée durer 5 jours. Le cessez-le-feu a été décrété unilatéralement par la coalition qui bombarde depuis fin mars les rebelles chiites houthis pro-iraniens. Entre-temps, les combats se poursuivent dans le sud du pays. La crise yéménite sera au centre d'un débat ce soir au Conseil de sécurité de l'ONU. Hier, 12 loyalistes ont été tués par erreur, dit-on, lors d'une frappe de la coalition. En Syrie, le groupe État islamique subit un autre revers face à une coalition de circonstances de l'armée de Bachar al-Assad et des forces kurdes. Après 33 jours de combat, l'offensive des djihadistes à Hasaki a fait long feu. Ils ont en effet été chassés du dernier quartier qu'ils avaient pu occuper depuis le 25 juin, a signalé l'Observatoire syrien des droits de l'homme à l'agence France Presse. Le groupe État islamique a perdu 287 combattants dans cette bataille où il a dû faire face également aux frappes de la coalition internationale. Parlons un peu de l'économie américaine. La confiance des consommateurs a enregistré sa plus grande chute en 4 ans à cause de perspectives moins optimistes sur le secteur de l'emploi notamment. L'industrie du logement, par exemple, qui semblait rebondir un peu, a connu un ralentissement dans les grandes villes. Ces données décevantes coïncident avec une importante réunion de la Réserve fédérale qui examine aujourd'hui et demain mercredi si l'économie américaine est assez forte pour justifier un terme à la politique de taux d'intérêt proche de zéro pratiquée par la Réserve fédérale ici aux États-Unis. Il faut dire qu'en marge de la visite officielle en Éthiopie de Barack Obama, il s'est prononcé sur la crise au Burundi en particulier et il a déploré le fait que le processus électoral se soit déroulé de façon non crédible, selon Washington. Nouvelle du Monde, chez Romain Dorsil.
au cœur de l'info sur VOA Afrique.